With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Salut, c'est Thomas Rozek. Comme on ne pouvait pas se voir, qu'on devait pour une bonne partie d'entre nous rester chez nous, le confinement a paradoxalement sans doute été une période où nous avons beaucoup parlé, discuté, conversé. On a fait des apéros virtuels, des réunions en visio, on a passé des coups de fil un peu plus longs et un peu plus fréquents que d'habitude aux gens qu'on aime. Et dans cette avalanche de mots échangés, on a toutes et tous fait appel à des petits nouveaux, des termes qui ont pris d'un seul coup une grande place, qu'ils aient été inventés pour l'occasion ou ressortis du placard des mots peu usités, comme on dit joliment. Confinement, déconfinement, zoom apéro, covidé ou hydroxychloroquine, ce vocabulaire de la pandémie nous a donné envie, avec ma camarade Laëlia Véron du podcast Parler comme jamais, de nous interroger. Qu'est-ce que ces nouveaux mots, ces nouveaux usages, ces nouvelles pratiques nous disent du fonctionnement de la langue, de sa vivacité, de sa capacité à s'adapter aux crises? Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B.
Confinement.
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 Le déconfinement.
Déconfinement.
Du Skypero.
Covid-19.
Coronavirus.
Hydroxychloroquine.
Hydroxychloroquine.
Nous sommes en guerre.
Outre Laëlia, autour du micro, à distance forcément, il y a aussi Maria Candéa, sociolinguiste à l'Université Paris 3. Elle a co-signé avec Laëlia le livre « Le français est à nous » paru aux éditions de La Découverte l'an dernier. On a commencé par se dire que si la langue n'entre pas en crise, elle l'accompagne cependant au travers de ce vocabulaire, de ces champs lexicaux ou sémantiques qui s'imposent durant ces événements majeurs et globaux.
Oui, ça montre bien que la langue n'est pas détachée de la société. La langue n'est pas quelque chose qui serait à côté. Maria dit souvent qu'il serait dans une boîte à côté qu'on ouvrirait de temps en temps. La langue, elle est dans la société, elle est dans nos usages. Et c'est normal qu'elle soit là quand on parle de crise. Elle fait partie de la société, elle fait partie des évolutions de la société. Elle les dit, elle les accompagne, elle les nomme, elle aide à les comprendre, elle aide à les gérer. Donc forcément, cette crise du coronavirus, on allait à la fois la sentir dans la langue, essayer à des moments de la comprendre avec la langue, de l'expliquer avec la langue. Et donc, bien sûr, elle va jouer, tu te demandais si c'était le champ lexical ou sémantique, et bien les deux. Ça va jouer sur le lexique avec l'invention de nouveaux mots, et ça va jouer sur la sémantique avec l'invention de nouveaux mots. Ça peut être aussi le fait que des mots prennent un autre sens. La sémantique, ça renvoie plutôt au sens et le lexique au vocabulaire.
Alors, si on commence par le vocabulaire, c'est quoi les mots qui vont rester? Alors, c'est difficile de se projeter, vu qu'on est encore en plein dedans, mais c'est quoi les mots qui apparemment vont rester, qui sont apparus, qui ont été créés par cette crise, par les usages qui en ont été faits, et qui risquent de rester dans notre vocabulaire encore un petit moment?
On peut penser que, par exemple, le nouveau sens du mot « confinement » et le mot déconfinement vont rester, parce que quand même ça nous a marqué, et puis pas juste à l'échelle de la France, à une échelle mondiale, donc on peut penser qu'ils vont rester. Après déconfinement, on a dit souvent que le mot a été créé avec la crise. C'est difficile de savoir exactement quand un nouveau mot est créé, parce qu'on peut toujours trouver une occurrence antérieure. Mais en tout cas, cet usage-là massif, il est nouveau, par exemple, pour le mot « confinement », du point de vue sémantique. Avant confinement, ça ne voulait pas du tout dire ça. Ça ne voulait pas dire des populations, beaucoup de personnes qui sont confinées obligatoirement. Et déconfinement, on ne l'avait pas vu non plus, ce mot-là. On peut toujours trouver une occurrence antérieure, mais... Il a été forgé par rapport au mot confinement, donc avec une formation morphologique particulière et avec un sens particulier. Mais après, Maria en parlait, par exemple, il y a certains mots qui sont d'un usage moins massif, qui sont plus générationnels ou plus d'un certain milieu social et qui peut-être ne vont pas rester, par exemple, apéro Zoom, ce genre de choses. Je ne sais pas si Maria, tu veux en dire quoi?
Juste sur déconfinement, en fait, c'est intéressant parce que le préfixe « dé », c'est un préfixe hyper productif en français. Les enfants l'utilisent spontanément. Et en fait, c'est un préfixe qui a deux sens. C'est deux préfixes en un. Un qui est très ancien, qui n'est plus du tout productif et qu'on trouve dans desséché ou dans délimité. Desséché ou délimité, c'est l'extrême de sécher ou l'extrême de limiter. Enfin, c'est vraiment un sens très fort. C'est pas le contraire. Alors que le préfixe « des », pour nous, maintenant, le seul préfixe productif, c'est celui négatif. Et par exemple, pour les enfants, c'est très facile de former des mots avec « des », même quand ils n'existent pas, enfin, de les former spontanément. Et c'est ce qu'on a fait avec des confinements. Tout le monde l'a formé spontanément. Les enfants forment « démourir », par exemple. On va faire démourir un animal, ou on va essayer de faire démourir un animal, c'est tout à fait logique, hein, c'est dans la logique de la langue. Par contre, dessécher, pour un enfant, ça voudra dire mouiller quelque chose. Donc en fait, ça fait partie des outils que la langue met à notre disposition et dont on se sert spontanément tout le temps. Et tous ne vont pas dans le dictionnaire, tout simplement, parce qu'ils ne vont pas être suffisamment repris. Parce qu'il y a deux choses. Il y a la capacité qu'on a à créer des mots nouveaux dans notre propre langue, qui est quelque chose qui fait partie de nos compétences et de nos pratiques. Et la deuxième chose, c'est est-ce que ces créations vont se diffuser et vont se stabiliser, vont être adoptées par plein de gens ? C'est complètement autre chose, c'est un phénomène social, pas linguistique.
Justement, ce qui est intéressant avec déconfinement, c'est que pas mal de personnes ont dit que ça a été créé par Édouard Philippe lorsqu'il l'a prononcé dans son premier discours officiel à ce sujet, si je ne me trompe pas, le 1er avril. Mais moi, je pense que
d'autres
personnes l'ont utilisé, fait avant, puisque comme le dit Maria, c'est un préfixe très productif en français. Je pense que dès qu'on nous a parlé de confinement, il y a plein de personnes qui ont dû dire déconfinement tout de suite, qu'on dû se dire bon, quand est-ce que ça va terminer, donc quand est-ce qu'on va pouvoir se déconfiner. Voilà, Édouard Philippe, c'est juste le fait que le mot effectivement est entériné dans une langue politique administrative officielle, mais si le mot est bien implanté, c'est parce qu'il a été massif, et justement il a été sans doute créé par plein de personnes en même temps,
et c'est ce qui expliquera sans doute qu'il se maintiendra dans la langue, vu qu'il était l'usage précédé, on va dire la sanction légale quasiment du Premier ministre. Justement, si on en reste sur cette idée de la validation de ces mots, on a assisté à un processus très très français pendant cette séquence. C'est le moment où l'Académie s'est réveillée après plusieurs semaines de pandémie et a décidé que le Covid était en fait la Covid.
Oui, alors après plusieurs semaines, après deux mois, ce qui est beaucoup par rapport au langage, mais pas beaucoup des fois par rapport à l'Académie, enfin... ce qui est intéressant, c'est que l'Académie française, bon, des fois, elle a des réactions qui n'ont absolument rien de linguistique, qui n'ont aucune valeur linguistique, qui ne s'appuient sur aucun argument linguistique. Là, pour être honnête, il y avait des arguments linguistiques. L'argument, c'était qu'en gros, vu que c'est un acronyme, Covid, et que le D renvoie à disease en anglais, donc à maladie, et que maladie est un mot féminin, on devrait mettre ça au féminin. C'est un argument qui, du point de vue linguistique, peut se discuter, parce que des fois, on pourrait dire que bon, on n'a pas forcément conscience que c'est un acronyme. En plus, c'est un acronyme anglais, donc ça pourrait se discuter d'un point de vue linguistique, mais au moins, il y avait un argument linguistique, et c'est le même argument qui avait été employé par l'Office, je ne sais pas si je me trompe de mot, mais l'Office québécois pour la langue française, mais c'est intéressant, effectivement, de comparer les deux, parce que l'Académie a dit ça deux mois après, alors que l'usage massif de Covid au masculin était complètement partagé par tout le monde. Donc, ça ne sert à rien de dire ça deux mois après quand l'usage est implanté. Alors qu'au Québec, ce qui est intéressant, c'est que l'Office a recommandé aussi la COVID, mais l'a recommandé beaucoup plus vite en travaillant en partenariat avec les médias et du coup a aussi accompagné l'usage. Et effectivement, là-bas, on dit plutôt la COVID.
On dit les deux. En fait, il faut faire attention parce qu'il n'y a jamais d'homogénéité. On dit les deux parce qu'au tout début, on nous a dit le coronavirus, donc ça, tout le monde l'avait appris. La plupart des gens disaient le corona, enfin ça faisait parce que c'est trop long. Et après, on nous a expliqué qu'il y avait plein de coronavirus différents et que c'était pas assez précis. Et tout le monde a compris que Covid-19, c'était le nom précis de ce coronavirus précis. Et en fait, là où il y a flottement, c'est qu'il y a plein de gens, la plupart des gens utilisent le Covid pour appeler le virus et non pas la maladie provoquée par le virus. Et c'est ça le point d'ambiguïté. Et même au Québec, où les médias ont massivement parlé de la COVID pour la maladie déclenchée par le coronavirus de 2019, même là, il reste l'ambiguïté. Il y a plein de gens qui appellent attraper le COVID parce que c'est le virus, en fait. Donc, je pense que ça restera...
Oui, donc même là-bas, effectivement, il y a les deux usages. Mais au moins, là, si on réfléchit au rôle des institutions... l'institution là-bas ne va pas complètement contre un usage, puisqu'il y a quand même un usage du « là », alors qu'en France, c'est vraiment absurde. Moi, je trouve que ce qui est intéressant, si on réfléchit au rôle des institutions qui se mêlent de langue avec cet exemple de « le » ou « la » COVID, c'est que Si on remarque quelque chose, l'Académie française a dit qu'il fallait dire la Covid. Bon, déjà, 2 mois après, alors que l'usage est implanté, c'est absurde. Mais si on va plus loin, regarde les journaux qui relaient l'avis de l'Académie française comme légitime, typiquement le Figaro, nous disent l'Académie française a tranché, il faut dire la Covid. Et si tu regardes, le jour même et le jour d'après, il y a des articles du même Figaro qui continuent à dire le. Si on regarde les prises de parole des académiciens, Tim Finkielkraut, il continue à dire le. Donc, à quoi sert cette académie si même ses soutiens médiatiques, si même ses représentants institutionnels ne suivent pas les préceptes qu'elle donne? Eh bien, ça ne sert justement qu'à nous dire « vous parlez mal ». C'est même pas l'idée de mettre en place un autre usage et d'ériger de nouvelles règles, puisque eux-mêmes ne le font pas. Ça sert juste à dire « vous parlez mal ». C'est assez révélateur, à mon avis, de l'Académie française. Ça ne sert pas à nous donner des règles, ça ne sert pas à, même pas tellement à essayer de changer notre usage, ça sert juste à provoquer ce qu'on appelle de l'insécurité linguistique.
Oui, ça c'est spécifique à l'Académie française qui n'a pas d'outils, qui n'a pas d'équipe technique, qui n'a pas de veille sur l'usage, qui ne sait pas comment fonctionne la langue, qui n'a pas de spécialiste, qui ne produit pas d'outils non plus, qui ne produit pas de dictionnaire, c'est un par siècle, pas de grammaire, rien. Alors que les dictionnaires ont quand même ce rôle actif, beaucoup plus efficace que l'Académie. Et là, c'est plus intéressant, je trouve, de parler des dictionnaires. Et l'émission de Parler comme jamais sur les dictionnaires, je pense que ça a apporté beaucoup d'informations aux gens, parce que les gens imaginent aussi que les dictionnaires ont un rôle un peu comme l'Académie, et presque que les dictionnaires travaillent avec l'Académie, ce qui est complètement faux, alors que les dictionnaires ont justement des équipes de veille et font des choix de ligne éditoriale pour savoir quels sont les mots qui vont mettre en avant, en fait, et auxquels ils vont donner une sanction, mais ils disent clairement, ils observent les usages, ils vont pas inventer des mots.
Il y a un exemple de ça qui est très frappant. Les lexicographes du Robert qui ont donc mis en ligne dans leur version électronique, ont intégré des mots autour du coronavirus, ont indiqué pour Covid le ou la Covid, mais pas parce que l'Académie française a dit qu'il fallait dire la Covid, parce que l'usage francophone est partagé, puisque au Québec, il y a aussi des personnes qui disent la Covid. Donc, c'est bien l'usage qui est enregistré dans ce choix de dire le ou la Covid, genre indéterminé, et pas du tout l'Académie.
Au-delà de nos angoisses linguistiques et de toute la langue qui a été déployée, notamment médiatiquement, pour parler de cette crise, parler abondamment de cette crise, voire parler tout le temps de cette crise, il y a aussi plein d'usages de la langue un peu plus légers qui se sont développés, là, plutôt du côté du public, des citoyens. On a retrouvé le besoin un peu ludique de jouer avec la langue, même dans les périodes, et surtout même peut-être dans les périodes de crise.
Oui, ça, je pense que c'est important, parce que des fois, on a une vision du langage très restreinte comme purement informatif, et on oublie qu'il y a aussi toutes les fonctions esthétiques, ludiques avec la langue, et on a vu effectivement beaucoup de jeux avec les mots, sur les mots, avec des mots composés, des mots valises, des dérivés, coronapéro, zoomapéro, skypapéro, beaucoup d'apéro, hein. Beaucoup de des mots valises covidio, coronalove, covidé, covifatigué, enfin bref, il y a eu plein d'inventions, et ça, je pense que ça montre à quel point déjà on a besoin de nommer ce qui se passe, de se saisir des mots, et effectivement quand on parle aussi de choses qui sont difficiles, de les mettre un peu à distance en jouant avec les mots. Et il ne faut pas oublier que le langage, c'est aussi ça, ça a toujours été ça, et c'est normal, et c'est un bon moyen de s'approprier la langue et peut-être aussi de mieux supporter les événements.
C'est aussi un outil de s'affilier à des groupes, en fait. Enfin, il y a des modes par groupe. Quand on utilise certains mots, on montre qu'on fait partie de tel ou tel groupe, telle ou telle génération, enfin, qu'on a telle ou telle pratique. Le langage, c'est aussi une pratique sociale, et donc elle est partagée. Et c'est un peu comme les vêtements, comme les choix qu'on fait, qu'on affiche, qu'on montre aux autres. Donc tout le monde n'a pas utilisé Zoom Apéro.
Oui, on retrouve ce qu'on disait au début. Autant il y a des usages massifs comme confinement, déconfinement, autant certains de ces néologismes comme Zoom Apéro, eh bien c'est des usages plus restreints qui effectivement appartenir soit à certains milieux sociaux, soit à certaines pratiques, à certaines générations. Et peut-être que ça, ce sont plus des mots à la mode. Donc ça, ces mots-là, on n'est pas sûr qu'ils vont rester, par exemple. Parce que justement, c'est la différence entre un usage massif signifie un usage restreint, plus marqué socialement ou plus marqué d'un point de vue générationnel.
Qui dit usage massif ou appartenance dit aussi malheureusement souvent exclusion, parce qu'il y a toujours des catégories de personnes qui sont laissées en dehors de ces usages. Et là, je pense tout particulièrement aux personnes sourdes et malentendantes. On a pas mal parlé d'elles et eux pendant cette séquence. D'ailleurs, Parler comme jamais et Programmer, on a chacun de notre côté fait des épisodes autour de ces questions. Comment elle s'inscrit, notamment la langue des signes française, dans une crise comme celle-là ?
Ce qui est vraiment intéressant à mon avis, c'est que quand on parle des néologismes de la formation en langue vocale française, eh bien, il ne faut pas oublier qu'il y a la même chose et les mêmes problèmes qui se sont posés en langue des signes. Et il y a du coup aussi des questions qui sont posées. Comment est-ce qu'on allait signer coronavirus, par exemple ? Et puis, comment signer aussi des mots qui n'avaient pas de signe en langue des signes jusqu'ici, hein. C'était par exemple, alors là, je ne sais plus comment le prononcer,
hydroxychloroquine.
Voilà, hydroxychloroquine. Ça, si on l'épelle, ça va être beaucoup trop long, ça ne va pas du tout être efficace comme communication. Donc, il faut trouver soit un signe, soit une périphrase. Mais ça nécessitait des facultés d'adaptation très rapides. On n'avait pas forcément le temps d'attendre qu'un usage s'impose. Et ça aussi, je trouve que c'est très révélateur de comment ces processus de création de nouveaux mots se posent dans toute langue.
C'est ça, ça se pose dans toute langue. En fait, c'est très marrant ce que tu as fait, hydroxychlo, comment on dit déjà. Et ben voilà, tout le monde, toutes les langues ont eu ce problème-là, comment on dit c'est quoi ce truc. Et ça, c'est pas un mot nouveau, c'est juste qu'on a appris des mots.
On a aussi vu l'émergence dans toutes les langues, pour le coup, de mots nouveaux qui se ressemblent. Tu mentionnais, Leïla, quand on préparait l'émission, Covidio.
Oui, Covidio, et ben donc un mot qui est formé, une sorte de mot valise, hein, qui est formé par donc Covid et idiot. Et ce qui était drôle, c'est que bon, il y a beaucoup de veille autour des nouveaux mots, des néologismes. Visiblement, il apparaît dans plein de langues parce qu'il a des équivalents faciles dans d'autres langues, donc en espagnol, Covidiota, en néerlandais, en allemand. Et en français, par exemple, il est visiblement très utilisé au Québec. J'ai regardé un peu les journaux, par exemple le Journal de Montréal, qui parle souvent des rassemblements de Covidio pour des gens qui manifestent contre le confinement. Donc ça, ça a été un nouveau mot qui a eu beaucoup de succès. Et bien, peut-être que ça témoigne aussi bien de notre besoin de faire des nouveaux mots que de notre besoin des mots de nous énerver et de trouver des cibles dans les moments de crise.
Qui a moins eu de succès en France parce qu'il y a eu moins de rassemblements comme ça. Il y a eu moins de tensions peut-être, en tout cas pour l'instant. Ce que ça révèle, c'est toujours des choses finalement qu'on savait avant. C'est le fait que les gens sont assez braqués au lieu de... Nous, on a un vrai bonheur à observer les nouvelles choses. On prend des notes et on se file des SMS. T'as entendu Covidé, je connaissais pas, super, je note. Enfin, c'est un vrai bonheur de regarder ce qui sort, ce qui émerge, les choses nouvelles. Et il y a une réaction qui n'est pas celle de tout le monde, mais qui est quand même très courante en français, de dire « Oh là là, est-ce que le mot existe ? Est-ce qu'on a le droit de l'utiliser ?» On a lu des choses comme ça, mais est-ce qu'on peut dire déconfinement s'il n'est pas dans le dictionnaire ? Vraiment une espèce de peur par rapport à sa propre langue, qui fait que les gens, au lieu d'avoir conscience de leur pouvoir, qui est énorme, sur leur langue, ils ont plutôt peur. Enfin, du coup, c'est une attitude un peu timorée, un peu...
Oui, en fait, je pense qu'on dit souvent « Ah mon Dieu, cette crise va changer la langue ». Bon, ce qui est vrai, c'est qu'on voit des nouveaux mots, des nouveaux usages qui émergent et qui s'imposent. En témoigne la réaction du Robert, là, de les intégrer très vite. Mais on retrouve en même temps des processus et des débats habituels, parce que bon, la création de nouveaux mots, on n'a pas attendu maintenant. La tension entre l'usage et l'institution, des institutions puristes type Académie française déconnectées de l'usage, bah, c'est pas nouveau non plus. Le fait d'utiliser le langage pour informer, pour jouer, ça c'est aussi quelque chose de très vieux. La différence entre un usage massif, un usage restreint, plus social, comme disait Maria, c'est aussi quelque chose de nouveau. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça concentre plein d'enjeux autour de la langue qu'on peut observer en même temps, et c'est à la fois surprenant et non surprenant en même temps.
Et je paraphraserai pour finir ma camarade Laëlia Véron qui dit très justement qu'une des leçons à tirer de tout ça, c'est qu'une langue ne se réduit pas à une liste de mots ou de pratiques définies à l'avance. Si elle reste vivante, c'est qu'elle évolue avec le monde et qu'elle est donc capable de dire aussi bien la catastrophe que la résilience. Merci à Maria Candéa et Laëlia Véron d'avoir piloté avec moi cet épisode de Programme B qui, comme vous le savez, est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Abonnez-vous aussi à Parler comme jamais si c'est pas déjà fait. Facebook, Twitter, Instagram, si vous voulez nous parler, n'oubliez pas de bien vous laver les mains, de respecter les gestes barrières et de continuer à prendre des nouvelles de celles et ceux que vous aimez. Et à demain pour un nouvel épisode.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine, à partir du 27 mars 2024, sur toutes les applications de podcast.